Chapitre 14. Au milieu de tous ces événements, la barbe de Pompée avait poussé. Et, sans opposition, cette fois, il avait obtenu le triomphe et le consulat. Sa puissance était si grande en ce moment, à Rome, que Crassus, qui le boudait depuis l'affaire des gladiateurs, fut obligé de demander en quelque sorte la permission de Pompée pour être consul. Pompée comprit combien le grandissait cette humilité d'un homme qui, à cause de sa richesse et de son éloquence, méprisait tous les autres hommes. Il oublia qu'il avait des torts envers Crassus, ce qui était bien plus beau que d'oublier les torts de Crassus si Crassus en eût eu envers lui. Il oublia, disons-nous, les torts qu'il avait eus envers Crassus et le fit nommer consul en même temps que lui. César absent, Crassus et Pompée se partageaient ainsi l'autorité, Crassus étant plus influent près du Sénat, Pompée ayant plus de crédit près du peuple. Puis Pompée était ce que, de nos jours, on appellerait un banquiste. Il connaissait son peuple romain et savait comment il fallait le prendre. Ainsi, il avait l'habitude que les chevaliers, après avoir servi le temps prescrit par la loi, amenassent leur cheval sur la place publique et là, devant les 200 sœurs, rendissent compte de leur campagne, nommassent les généraux et les capitaines sous lesquels ils avaient servi et, en face du peuple, reçussent les éloges ou le blâme que leur conduite avait mérité. Or, les censeurs Gélius et Lentulus étant sur leur siège, on vit de loin Pompée, revêtu du consulat, accompagné, ou plutôt précédé des lictors, descendre vers le forum, menant comme un simple chevalier son cheval par la bride, puis ordonnant à ses lictors de s'ouvrir, comparaissant lui et son cheval devant le tribunal. Le peuple, à cette vue, fut pris d'un si grand respect que pas un bravo n'éclata, quoiqu'il fût parfaitement visible que tout le monde était en admiration devant ce que faisait Pompée. Les questeurs, au contraire, tout orgueilleux de cette marque de déférence, répondirent par un signe au salut de Pompée, et le plus âgé des deux se levant. « Pompée le Grand, lui dit-il, je vous demande si vous avez fait toutes les campagnes ordonnées par la loi. » « Oui, répondit Pompée à haute voix, je les ai faites et n'ai jamais eu d'autre capitaine ni d'autre général que moi. » À ces mots, le peuple poussa de grands cris et les censeurs se levèrent et reconduisirent Pompée chez lui avec toute la foule pour lui rendre, autant qu'il était en eux, l'honneur qu'il leur avait fait. Mais le plus grand triomphe de Pompée fut celui qu'il obtint le jour où il fut investi du pouvoir que nous avons dit pour combattre les pirates. La loi qu'il investissait de ce pouvoir ne passa point sans opposition, car une fois à la tête de ce pouvoir, ayant 200 vaisseaux sous ses ordres, 15 lieutenants pris dans le Sénat forcés de lui obéir, haute main sur tous les questeurs et receveurs des deniers publics, autorité monarchique et puissance absolue sur toutes les côtes, à la distance de 400 stades de la mer, c'est-à-dire sur tout l'Empire romain, nulle puissance humaine ne pouvait empêcher Pompée d'être roi, si la royauté l'eût tenté. Aussi, à la lecture, le projet de loi, accueilli par le peuple avec des cris d'enthousiasme, appuyé par César, qui voulait se faire bien voir de ce peuple, fut-il repoussé par un certain nombre de sénateurs. Un des consuls s'était même écrié « Prends garde, Pompée, en voulant suivre les traces de Romulus, tu pourrais bien, comme lui, disparaître dans quelque tempête. » Catulus, pour lequel Pompée avait combattu, n'était pas non plus favorable à cette loi, et cependant, tout en parlant contre elle, il faisait le plus grand éloge de Pompée. « Mais, dit-il, n'exposez pas sans cesse ainsi le premier citoyen et le plus grand homme de Rome au hasard de la guerre. Car enfin, si vous le perdiez, quel autre le remplacerait ?»« Toi, toi, toi-même » cria-t-on de toutes parts. Alors Rossius s'avança, fit signe qu'il voulait parler, et comme, au milieu des clameurs du peuple, il ne pouvait obtenir la parole, il fit signe, en levant deux doigts, qu'il fallait donner un collègue à Pompée. Mais, à cette malencontreuse proposition, le peuple impatient poussa de tels cris qu'un corbeau qui passait en ce moment au-dessus du forum en tomba étourdi au milieu de la foule. « Ce qui prouve, dit gravement Plutarque, que ce n'est pas le déchirement et la séparation de l'air dans lequel se forme un vide qui fait tomber les oiseaux à terre, mais que cela vient de ceux qui sont frappés par les clameurs qui, poussés avec force, excitent dans l'air une secousse violente et un tourbillon rapide. Nous avons dit ailleurs comment cette guerre se termina à la plus grande gloire de Pompée. Mais ce que nous n'avons pas dit, c'est la partialité que Pompée, qui avait fait tuer Carbon, Quintus Valerius et Brutus d'une façon si cruelle, montra pour les pirates. Non seulement il les reçut à composition, leur fit grâce de la vie, leur laissa une partie de leurs biens, mais encore, comme Métellus, parent du Métellus dont il avait été collègue en Espagne, comme Métellus, avant que Pompée eût le commandement en chef de cette guerre, avait été envoyé en Crète pour poursuivre les pirates dans cette île, qui, après la Cilicie, était leur repère le mieux fortifié, et comme Métellus les poursuivait à outrance et les faisait mettre en croix au fur et à mesure qu'il les prenait, ceux-ci, sachant avec quelle douceur Pompée avait traité leurs compagnons, lui demandèrent du secours contre Métellus. La demande était étrange, mais ce qu'il y eut de plus étrange encore, c'est qu'elle leur fut accordée. Pompée écrivit à Métellus pour lui faire défendre de continuer la guerre. Il ordonna aux villes de ne plus obéir à Métellus et fit entrer son lieutenant Lucius Octavius dans une ville assiégée où il combattit pour les pirates contre les soldats de Métellus. Ce serait incompréhensible si l'on ne connaissait la manière de faire de Pompée, qui ne voulait pas plus en cette occasion laisser à Métellus sa part de gloire dans la destruction des pirates qu'il n'avait voulu laisser à Crassus sa part de gloire dans la destruction des gladiateurs. Quand on apprit à Rome que ces pirates si terribles avaient été anéantis ou soumis en moins de 3 mois, l'enthousiasme pour Pompée fut tel que le tribun du peuple Manlius proposa une loi qui donnait à Pompée le commandement de toutes les provinces et de toutes les troupes que Lucullus avait sous ses ordres, en y joignant la Bithynie occupée par Glabrion. Cette loi l'autorisait à conserver les mêmes forces maritimes, à commander avec la même puissance que dans la précédente guerre, enfin mettait à sa discrétion le reste de l'Empire romain, puisqu'elle lui donnait, outre la Phrygie, la Lycaonie, la Galatie, la Cappadoce, la Cilicie, la Haute-Colchide et l'Arménie, les armées que Lucullus avait employées à vaincre Mithridate et Tigrane. D'abord, les sénateurs et tous les hommes considérables de Rome s'étaient réunis pour rejeter cette loi, avaient échangé les promesses les plus sacrées, s'étaient jurés les uns aux autres de ne pas trahir la cause de la liberté en remettant à un seul homme et de leur propre volonté un pouvoir égal à celui que Sylla avait conquis par la violence. Mais le jour venu, de tous les orateurs inscrits pour prendre la parole, il arriva ce qui arrive parfois sous le régime parlementaire, c'est qu'un seul osa parler. Ce fut Catulus. Mais aussi parla-t-il en homme de bien et avec sa franchise accoutumée, interpellant le Sénat et criant « Sénateur, n'est-il plus une montagne ou une roche sur laquelle nous puissions nous retirer et mourir libres ?» Mais Rome en était arrivé à ce moment où il lui fallait un maître, quel qu'il fût. Aucune voix ne répondit à celle de Catulus. La loi passa. « Hélas !» dit Pompée en recevant le décret, « mes travaux n'auront donc pas de fin ?» Passerai-je donc sans cesse d'un commandement à un autre commandement, et ne pourrai-je jamais, avec ma femme et mes enfants, mener la douce vie de la campagne ? Et, levant les yeux au ciel et frappant sa cuisse de sa main, il fit tous les gestes d'un homme au désespoir. Pauvre Pompée, il eût fait bien d'autres gestes si la loi n'eût point passé. Seulement, il les eût fait seuls, et cela eût été de véritables gestes de désespoir. Il n'en fut pas de même de César, car lorsqu'il eut obtenu le gouvernement des Gaules, il s'écria dans sa joie qu'il ne s'inquiétait pas de laisser paraître « Je suis enfin parvenu au comble de mes vœux et à partir d'aujourd'hui, je marcherai sur la tête de mes concitoyens. »